Et en ce jeudi, on va revenir à nos cartes postales de Belgique en compagnie de notre passionné d'histoire et accessoirement guide touristique. Je veux parler bien sûr de Louis Berkovitch. Bonjour Louis Berkovitch.
Bonjour Didier.
Ça va bien ?
Oui, ça va bien, un peu chaud.
Ah oui, mais ça, que voulez-vous, hein, c'est par les temps qui courent, c'était prévu. Pour une fois, ils ne se sont pas plantés à l'IRM. Bien. On va, grâce à vous, nos auditeurs le savent maintenant, on va tâcher de retrouver et de parler de notre histoire, l'histoire de Bruxelles, de la Belgique, mais de Bruxelles en particulier, et donc de la communauté juive. Et vous m'avez dit cette semaine, j'aimerais bien expliquer un petit peu la fin du XVIIIe siècle et l'arrivée de Napoléon avec tout ce que ça a pu apporter. Alors, racontez-nous un petit peu, comment était la Belgique en cette fin du XVIIIe siècle, Louis Berkovitch ?
Bon, pratiquement tout le XVIIIe siècle, nous appartenons aux Autrichiens, donc nous sommes les Pays-Bas autrichiens, et après Charles de Lorraine, qui, comme je l'ai dit, donc permettait aux Juifs d'exercer leur métier, mais demandait une taxe telle que c'était pratiquement, ils devaient payer tout ce qu'ils gagnaient à Charles de Lorraine, donc à l'Autriche. Alors, après Charles de Lorraine, vient Joseph II, qui n'a pas eu une très bonne presse dans nos livres d'histoire, mais moi je l'aime bien, Joseph II, parce qu'en 1781, il a signé ce qu'on appelle l'édit de tolérance. Et l'édit de tolérance permet aux Juifs de venir d'abord dans le Brabant, et il n'y a plus de taxes, donc les autres religions sont permises aussi. Donc j'aime beaucoup cet édit de tolérance qui est quand même en avance sur ce que va faire la France avec la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme.
Bien sûr. Et en fait, Joseph II, c'est le dernier empereur, d'une certaine façon, de l'Autriche, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelait un despote éclairé. Et malheureusement, dans nos livres d'histoire, on a surtout garder le mot despote, et moi je préfère le mot éclairé.
D'accord. Est-ce qu'il a, en dehors de ce que vous aviez dit en ce qui concerne la communauté juive, bien sûr, et l'ouverture qu'il a faite envers la communauté, qu'a-t-il apporté à la Belgique d'une certaine manière, et à Bruxelles en particulier, Joseph II ?
Ben, c'est ça qui est embêtant par rapport à Charles de Lorraine, qui a vraiment fait une grande ouverture. On peut dire, ça c'est vrai aussi, que Joseph II a fait une gentille fermeture. Donc il permettait d'avoir par an, dans chaque ville, une fête. Donc, or les Belges, comme on sait, aiment bien faire la fête toute l'année, tous les week-ends. Et donc, par décret impérial, donc à Vienne, ça s'est très mal passé ici.
D'accord, donc ça veut dire une fête par an pour les Belges en général ou pour la communauté juive en particulier ?
Non, pas spécialement, donc c'était une fête par ville, par an.
D'accord, et donc les Juifs avaient-ils la liberté de culte à l'époque ?
Ah oui, certainement, c'est bien ça le plus important. Donc ça a commencé comme ça, donc le mot le dit bien, l'édit de tolérance, donc ils sont bien tolérés, donc une tolérance par rapport à leur religion, et ils ne sont pas les seuls, hein, les protestants évidemment, bien sûr les catholiques, puisque l'Autriche est catholique, donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que pour les juifs, c'était une grosse différence.
Bien. Alors, si j'ai bien compris, sous les Autrichiens, les Juifs pouvaient pratiquer leur métier, mais on leur demandait des taxes telles que finalement, ça ne les intéressait que très peu parce qu'ils ne gagnaient rien, les pauvres. Par contre, liberté de culte grâce à Joseph II, le dernier empereur, despote éclairé, comme vous venez de le signaler. Et puis, arrive la Révolution française et donc un certain Napoléon Bonaparte.
C'est bien ça. Avec lui, ça va également aller dans le bon sens pour les Juifs. Donc, ils sont reconnus d'abord en France comme citoyens français de religion juive.
D'accord.
Donc, c'est un peu ambigu parce que il joue sur deux tableaux, et ce qui fait que les Juifs eux-mêmes, je vais pas dire ne savent plus très bien où ils en sont, mais peuvent ne pas être complètement reconnus comme indépendants.
Mais en même temps, j'ai envie de dire que nationalité et religion, encore de nos jours, n'ont rien à voir l'une avec l'autre. On peut être belge et juif, belge et musulman, belge et catholique aujourd'hui.
C'est bien ça. Donc, cette ambiguïté, je peux dire, viendrait plutôt de Napoléon. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'en 1808, Napoléon met en place ce qu'on appelle aujourd'hui encore, le consistoire pour les Juifs.
Ben justement, je voudrais qu'on s'arrête là-dessus deux minutes, si vous le permettez, Louis Berkovitch. D'où lui vient l'idée du consistoire ? Est-ce que c'est les Juifs qui lui ont demandé de mettre ça en place, ou bien c'est une idée, c'est une option politique que lui a choisie ?
Ben, je pense expliquer cela par le fait que Napoléon, étant un ancien général, qui devient empereur, et comme tout bon militaire, comme tout bon général, il se dit, ben voilà, si une population parmi les Français, donc que ce soit les Juifs, les protestants ou autres, même les francs-maçons, ont quelque chose à me demander, ils vont élire entre eux un représentant, une sorte de général, qui lui viendra me demander ce qu'il faut pour les Juifs, pour les protestants, pour les francs-maçons et tout ça.
En fait, donc, les représentants du consistoire, pour ce qui concerne la communauté juive, étaient en quelque sorte les ambassadeurs de la communauté juive auprès de l'empereur, c'est ça ?
Nous sommes bien d'accord. C'est une simple mise en place de quelque chose qui, au départ, pour Napoléon, était militaire et devient structuré pour les religions.
Est-ce que Napoléon, parce qu'on le connaissait, on le connaît, l'empereur, cette envie impériale de s'étendre, l'expansionnisme de Napoléon n'est plus à prouver, est-ce que Napoléon a également protégé les Juifs, ainsi que d'autres religions ? Mais ce qui m'intéresse moi, évidemment, ici, et à nous, à Radio Judaïca, c'est de voir si les Juifs étaient protégés par le code Napoléon, d'une certaine façon.
Je pense qu'il n'est pas dans son intention de plus les protéger. En tout cas, ce qui est bien pour les Juifs, c'est de les avoir reconnus comme citoyens.
D'accord, citoyen français pour le coup. Et ça veut dire quoi, que Bruxelles était française à l'époque ?
Ah oui, tout à fait. Nous participons donc par le côté français. Donc il y a beaucoup de provinces. Donc de département, ce qui va devenir nos provinces belges, mais il y a 9 départements français qui sont dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Belgique.
Bien sûr, et Bruxelles faisait partie donc de ce qui appartenait à l'Empire de Napoléon ?
Complètement, tout à fait.
Ok, ben ça j'ignorais, j'étais toujours persuadé que la Belgique était partagée en deux, évidemment entre la France et les Pays-Bas, bien évidemment, j'imagine, mais j'ignorais que Bruxelles était, entre guillemets, française à l'époque de Napoléon.
Tout à fait, nous participons, donc nous sommes dans l'État français, donc dans la France de Napoléon, oui, dans l'Empire de Napoléon.
Bien, c'est chouette, c'est un petit peu le but de cette carte postale tous les 15 jours, c'est d'en apprendre plus sur la communauté juive. Et la communauté juive de l'époque était-elle heureuse, Louis Berkovitch, de vivre à Bruxelles et de vivre en Belgique, ou bien avait-elle, je dirais, peur de cet empire et avait envie de déguerpir ?
Non, c'est-à-dire que, bon, officiellement, nous sommes dans l'Empire français. Mais pour les Juifs, eh bien, ils viennent d'un peu partout, donc de l'Europe, et ils peuvent exercer enfin leur métier comme ils veulent. On trouve des tas de métiers différents, que ce soit des libraires, que ce soit des médecins. Donc vraiment, c'est une grande liberté pour les Juifs sous Napoléon.
Ok, est-ce que des synagogues ont été créées du temps de Napoléon ? Je rappelle qu'on est au début du 19e siècle.
Il y a une synagogue à Bruxelles, ça c'est certain. Il y a une synagogue à Liège et il y aura une synagogue à Arlon.
Ok, mais je sais, figurez-vous qu'il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un courrier ici à la radio de quelqu'un, j'ai oublié le nom, mais qui me disait qu'il était à la tête d'une toute petite communauté encore à Arlon. J'ignorais qu'il y en avait une. Eh bien, comme quoi, vous voyez, vous repassez les plats d'une certaine manière. Elle est toujours vivante, cette communauté d'Arlon.
C'est tout à fait ça. Elle est moins connue, mais disons qu'en gros, ces trois villes-là vont très bien prospérer avec des Juifs qui nous viennent du Luxembourg, mm-hmm. parce que Arlon est tout près, d'Allemagne, parce que Liège c'est tout près, et Bruxelles, bon, on va rassembler des tas de Juifs qui viennent pratiquement de toute l'Europe.
Ah ben écoutez, c'est génial. Je vais résumer, parce que le temps évidemment nous est compté, je vais résumer notre carte postale d'aujourd'hui. À la fin du XVIIIe siècle, la Belgique était sous domination autrichienne. Joseph II, le despote éclairé, a créé un pacte ou un édit de tolérance qui permettait aux Juifs de pratiquer le culte et de pouvoir retravailler, puisqu'auparavant ils pouvaient travailler, mais il y avait des taxes telles que finalement ça n'avait aucun intérêt. Et puis à la suite de cela, Napoléon est arrivé à créé le consistoire qui existe encore aujourd'hui, dont le président actuel est Philippe Markevitch, qu'on reçoit souvent sur cette antenne. Et les Juifs n'étaient pas malheureux du temps de Napoléon en Belgique. C'est ce que je retiens de notre entretien d'aujourd'hui. Est-ce juste le résumé?
C'était un très bon résumé. Merci beaucoup, Didier.
Ah ben, merci infiniment, Louis. On se retrouve dans 15 jours. J'espère dans de meilleures conditions, parce que la communication n'était pas top. Mais j'ai hâte d'être dans 15 jours pour continuer d'apprendre un petit peu l'histoire de Belgique, de Bruxelles, l'histoire des Juifs en Belgique et à Bruxelles en particulier. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes passionné d'histoire et guide touristique à vos heures perdues dans Bruxelles. Et à dans 15 jours.
Merci beaucoup Didier, à bientôt.